Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles. Acte 6, c'est les premiers versets, les sept premiers versets. En ce jour-là, en ces jours-là d'opposition, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leur veuve était négligée dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres et après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait. Le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi jusqu'ici. Alors comme je l'ai fait les dernières fois, je vous propose de voir ce texte en trois étapes, de prendre d'abord un temps pour parcourir ce récit et après de voir les accents qu'on peut retenir de ce texte avant de pouvoir terminer sur quelques applications pour nous aujourd'hui. Alors, le parcours du récit. Alors on voit qu'il y a un nouveau problème dans l'Église. C'est les versets 1 et 2. Luc nous parle clairement de la croissance de l'Église. Les disciples se multipliaient. Le contexte de ce texte, de ce passage est clairement la croissance, la vitalité de l'Église. Le témoignage se répand dans toute la ville, dans Jérusalem. Quelque part aujourd'hui, si on devait employer un mot un peu contemporain, les apôtres sont à la tête d'une méga church. Imaginez-vous, il était question de 5000 il n'y a pas longtemps. Imaginez-vous le suivi pastoral de toute cette foule. Il y a tout à construire, à ordonner, on est au début. Il faut prendre le temps de rencontrer les uns les autres, de baptiser les autres, certains, de prier, d'enseigner. Les guérisons, les campagnes d'évangélisation à droite, à gauche, un repas communautaire tel soir, à tel endroit. La bénédiction, elle est là. Dieu agit et il faut la gérer. Et aucune tentative de l'arrêter jusqu'à présent n'a eu raison de cette croissance, de cette vitalité. Les relations fraternelles, l'amour les uns envers les autres s'exprimait par le partage, on l'avait vu, des biens matériels. Les miracles ont eu un impact sur la communauté. C'était un témoignage, les gens ils étaient waouh. Et autour de cette croissance, on découvre déjà qu'il y a quelque part une espèce d'organisation. Parce qu'au début, on connaît le nombre de convertis. Si on connaît, c'est qu'on sait qui on reconnaît comme chrétien. On se réunissait dans des endroits précis, des maisons. On savait que dans telle maison, telle famille accueillait l'église. C'était organisé, à tel moment précis. On se réunissait pour des repas. J'imaginais que ça devait être quelque part déjà organisé. De se dire, bah, pouvoir accueillir, ouvrir, bah là, on va pouvoir accueillir 200 ce soir. Il y avait cette collecte d'argent qu'on avait vu aussi, qui était déposée, et on savait que pour certains, il y avait des besoins. Donc il y avait de l'organisation déjà quelque part. Et on distribuait selon les besoins. Mais là, on assiste à un problème d'organisation. Un nouveau problème surgit et qui est relié à cette croissance. J'imagine assez bien la complexité. On parlait de 5000, certains commentateurs parlent maintenant, on est à peu près à 20 000 convertis. Vous imaginez la problématique rien que dans l'aspect de la communication, dans la gestion des besoins des uns et des autres. Les 12 apôtres, les 120 premiers disciples ne peuvent plus tout porter à eux seuls. Inévitablement, dans un groupe qui grandit, il arrive que les besoins de quelques-uns soient négligés. Et c'est le cas ici. En ce jour-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans le service quotidien. On a une opposition ici entre deux cultures. Les hellénistes, c'est les juifs plutôt de culture grecque qui parlaient probablement grec, qui avaient embrassé certains principes de vie, de langage, de coutumes grecques. Et de l'autre côté, les Hébreux. Il y a déjà deux groupes distincts dans l'Église. Et c'est en soi un signe de croissance. L'Église ne touche pas simplement les juifs. Non, ça se développe. Le message a déjà touché différentes couches et on le sait, il y a eu des pauvres, il y a des riches. Ici, ça a touché des gens de souche juive et de ceux qui venaient de régions voisines, qui étaient sur Jérusalem et qui étaient quelque part étrangers, de cultures, de langues différentes. Et tous ces gens-là, imaginez-vous, se retrouvent pour écouter l'enseignement des apôtres, à prier ensemble, à rompre le pain ensemble, à vivre ensemble une vie de communauté. Et on l'avait vu dans cette première étape de la vie de l'Église, la communion fraternelle était quelque chose de riche, de précieux, qui donnait envie. Et c'était quelque part aussi avec le partage des biens. La solidarité, ça joue à fond dans cette église. Les personnes sans beaucoup de ressources sont soutenues par ceux qui en ont. Ici, les veuves des hellénistes sont dépourvues. Et il y a des tensions. On a l'impression que le système marche contre eux. Leurs veuves sont négligées au profit peut-être des veuves de culture hébraïque. Et du coup, les murmures commencent entre les uns et les autres. Pour un petit détail, si vous en réfléchissez, ce n'est pas une question de doctrine, c'est une question de partage de biens. Alors que faire? Comment gérer cette situation? La division n'est pas loin quand il y a des murmures. Et on sait que ces murmures, on ne sait pas comment, mais arrivent aux oreilles des responsables, aux oreilles des apôtres. Et le verset 2 nous présente que la réaction des apôtres, alors que quelque part, le leadership est mis à mal, Dieu inspire leur démarche. La plainte semble légitime. Les apôtres convoquent la multitude des disciples pour chercher une solution. Oui, les apôtres reconnaissent le problème, mais ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Ils réaffirment maintenir et revenir à leurs priorités. Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ce n'est pas notre problème, cet aspect pratique, autrement dit, de service aux tables. Pourquoi? Parce que ça amènerait les apôtres à négliger leur ministère, leur appel. Les apôtres savent qu'à ce moment-là, leur priorité, c'est la prière, c'est la prédication de la parole, c'est l'enseignement, c'est l'étude de la parole. Ils ne peuvent pas être distraits de ces tâches pratiques. Ils ne peuvent pas tout faire. Autrement dit, ils ne peuvent plus distribuer l'argent et les vivres. Rappelez-vous, dans l'épisode d'avant, on avait l'impression que c'était les apôtres. On venait déposer devant les apôtres les sommes récoltées. Verset 4, pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Les apôtres considèrent face à ce problème qu'ils doivent rester fidèles à leurs priorités. Le problème donc de la distribution reste donc entier. Nous, on servira la parole, vous servez aux tables. Et du coup, on voit qu'ils font une proposition à l'église. On doit trouver d'autres personnes pour s'en occuper. Et les apôtres vont donner des directions assez précises à l'église. Et ils ont clairement une démarche de confiance vis-à-vis de ceux qui se plaignent quelque part. Verset 3. « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. » Choisissez cet homme. L'Église doit faire un choix. C'est à l'Église de faire un choix et d'en faire part aux apôtres. Les apôtres demandent à l'Église, à cette multitude, de participer à la recherche de solutions pratiques. Ils doivent trouver des personnes dignes de ce service, de cet engagement. Et une fois cette sélection faite, on doit les présenter aux apôtres qui vont les missionner, qui vont les charger de cet engagement. Les apôtres fixent clairement les critères, mais c'est les chrétiens de l'Église qui doivent se prendre en main dans cette situation-là. Les apôtres, on le voit, fixent 5 conditions. 1. Des hommes. Dans cette situation, clairement, les apôtres ont souhaité des hommes. 2. Parmi vous. C'est quelqu'un de parmi vous. Bien sûr, des croyants, des gens qui viennent d'entre nous, de la communauté. 3. Des hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Ces hommes doivent être intègres, sans reproche quelque part. Et quelque part, ça rejoint tout ce qu'on attend d'un ancien et d'un diacre qui est développé par Paul beaucoup plus tard. Autrement dit, les personnes qu'on doit choisir doivent avoir un exemple de piété, de vie avec le Seigneur qui donne envie de les suivre, qui donne envie de les écouter, qui donne envie de dire « Ok, je me soumets à ces personnes-là ». Des personnes qui sont remplies de l'esprit, c'est-à-dire des personnes qui sont soumises totalement dans tous les domaines de leur vie à Dieu, à la présence de Dieu dans leur vie. C'est une vie avec Dieu. Ils doivent être remplis de sagesse. La parole de Dieu nous encourage à demander la sagesse de Dieu, cette sagesse qui permet de mettre en pratique ce que Dieu nous demande, de mettre en relation les vérités de l'Écriture avec la situation de tous les jours. C'est ça la sagesse. Et elle découle de Dieu. Ici, dans quelque chose qui apparaît comme très pratique, c'est pratique de servir aux tables, si on réfléchit. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est dresser la table? Est-ce que c'est faire la sélection des nourritures? Est-ce que c'est de veiller à ce qu'on ait fait tous les achats, que chacun a une place? Et on voit que les qualités qui sont attendues de ces hommes sont profondément spirituelles. L'Église doit choisir des hommes spirituellement aptes au service. Et on voit que la nomination finale revient aux anciens, aux apôtres qui sont en place. Et donc on voit que c'est une solution, quelque part d'organisation, que l'Église a trouvée pour répondre à cette crise temporaire qui la traverse. Les apôtres ici n'ont pas peur de partager leur autorité et leurs responsabilités. Et l'ensemble de l'Église est impliqué dans ce processus. Choisissez parmi vous des hommes. C'est ce que nous voyons dans la suite, c'est qu'il y a la résolution par l'Église. Le plan des apôtres plaît à la multitude. Ce discours, verset 5, plut à toute la multitude et ils élirent Étienne, etc., etc. On désigne 7 hommes pour ce ministère. Les 7 portent des noms grecs. Tiens, ils n'ont pas choisi une parité de se dire, bon, il y a un problème entre hébreu et grec. On ne nous dit pas grand-chose de plus sur ces hommes-là, mais on voit que du coup, il y a dû avoir cette unité de se dire, ben voilà, on va choisir des personnes grecques pour diriger ça. Et ça posait probablement pas de problème aux Hébreux, d'origine hébreu, de se dire, ben voilà, on va suivre les directives de ces hommes-là. On va présenter un peu plus Étienne, on va nous dire que c'est un homme plein de foi, d'Esprit Saint, qui révèle quelque part son caractère. C'est un homme qu'on va découvrir dimanche prochain. Il y a Philippe, qui aura aussi un rôle important plus tard, par la suite, dans l'avancée de l'Évangile. On voit que le dernier, Nicolas, c'est un prosélyte, c'est-à-dire c'est même pas un juif. C'est un gars qui a embrassé cette foi-là. Il vient d'Antioche, il vient de loin, et puis il est là à Jérusalem et on le charge. On voit combien l'Évangile se répand et touche différentes personnes. Et on voit que ses membres, l'Église présente ses 7 aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Quelque part, cette imposition signifie, concrètement, on identifie ces personnes-là. On est garant, on veut les entourer, on veut les accompagner de notre prière et de la parole, vous les soutenir dans leur ministère. On voit que, si on poursuit le récit, que le résultat dans l'Église face à ce choix-là, la parole de Dieu se répandait. Le nombre de disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ce texte, Luc nous fait le choix de terminer par le résultat, par la conséquence. Il y a la sortie de crise. C'est pas la division, les murmures n'ont pas conduit à la division, au contraire. Les apôtres se sont laissés conduire par l'esprit pour diviser quelque part leur travail. Ils ont multiplié les responsables, ils ont multiplié du coup les occasions de servir. Et cette organisation libère les apôtres pour se consacrer à la parole de Dieu. Ce qu'eux-mêmes y faisaient, ils vont le faire mieux parce qu'ils ont délégué. Ils seront plus concentrés. Le service vis-à-vis des pauvres et des veuves ne sera plus négligé, il sera assuré correctement. Et du coup, l'Église grandit. Et comme Luc l'a fait pour toutes les oppositions, l'Église grandit. Ici, un choix humain, quelque part, d'organiser, de déléguer, de responsabiliser, et c'est la croissance de l'Église. La parole de Dieu se propageait. On voit que du coup, le ministère des apôtres a été fructueux. Ils ont pu se consacrer totalement à l'annonce de la parole. C'est l'action de la parole. Et voyez comment Luc il nous dit « beaucoup ». Il n'est plus question de 5 000 ou on ne sait plus, on n'arrive plus à les compter. Luc précise beaucoup. Et chose étonnante, c'est un petit clin d'œil que Luc nous fait là. Un détail, tout à la fin, il y a des sacrificateurs qui rejoignent la communauté. Il faut savoir que les sacrificateurs, on en considérait qu'à peu près à l'époque, il y en avait 8 000 qui étaient au service du temple, donc de la foi quelque part juive, de la religion juive, si on pourrait dire, le judaïsme, qui étaient au service concret du temple, découvrent l'évangile, rejoignent la communauté et du coup, quelque part, quittent le service au temple. On est vraiment dans le basculement. C'est l'Église maintenant. Et des hommes qui étaient concrètement au service rejoignent la communauté, alors qu'on est en train de parler de service. Les apôtres sont en train de discerner des hommes qui ne sont pas des pharisiens, qui vont être au service de l'Église. Quelque part, c'est le sacerdoce universel. Chacun des hommes et des femmes que Dieu a équipés sont appelés à le servir. Il n'y a plus simplement une classe qui est réservée. Et ça se voit par cette dernière partie. Un nouveau peuple que Dieu se forme et qui va se répandre bien au-delà de Jérusalem. Voilà comment on peut parcourir ce récit. Et je voudrais qu'on puisse relever les accents de ce récit. On peut dire pas mal de choses, mais je voudrais en relever, il me semble, 5 éléments par rapport à ce texte. On voit que la division est un frein à l'unité et à la croissance de l'Église. Alors c'est vrai, ça paraît banal comme expression, c'est normal. Mais dans l'Église, la division, c'est un frein à l'unité et à la croissance. On le voit, il y a la nécessité de résoudre. Luc encadre ce texte. Au début, il y a la croissance. On voit qu'il y a un problème. Et ce problème est résolu. Il y a à nouveau la croissance. Une division mettrait à mal l'Église. Et on le sait. L'histoire de l'Église le montre. C'est un principe qu'on comprend. Une Église qui est touchée par des conflits internes voit son message s'embrouiller quelque part. Notre énergie, notre zèle à vouloir être un témoin est compromis par ces temps qu'on doit prendre à résoudre ces difficultés pratiques ici, mais parfois c'est des difficultés beaucoup plus complexes. Une église qui est sujet aux divisions, c'est une église qui est quelque part centrée sur soi. On doit régler les problèmes. Et du coup, on néglige notre mandat d'être témoin à l'extérieur, de porter ce message de la grâce. Mais on voit aussi qu'il y a l'exemplarité de la démarche des apôtres. Les apôtres maintiennent leur autorité, mais on voit qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ne peuvent plus organiser toute cette distribution de vivres. Ils auraient pu dire « on va s'occuper du problème ». Nous, les apôtres, on va faire mieux que quiconque, parce que spirituellement, on sait ce que Dieu nous attend. Nous gardons la gestion de ce problème. Non, ils ont confié à d'autres cette mission-là. Imaginez-vous s'ils avaient décidé de maintenir. Non, on veut maintenir cette distribution-là. Je pense que le mécontentement aurait été quelque part réprimé pendant un temps, mais pas totalement guéri. Quelque part, un tour de vis supplémentaire, mais il y aurait eu un frein à la croissance. Ils n'auraient pas pu enseigner s'ils avaient dû courir aux tables quelque part. On sait que le pouvoir concentré entre les mains de quelques-uns qui sont débordés, ça fait pas du bien à la croissance. Bien des milieux, même associatifs, parfois même dans l'église, des responsables se sentent menacés par les suggestions, par les rumeurs qui circulent dans l'église. Il vaut mieux les taire. Et quand on n'est pas à la hauteur de la tâche, parce qu'ici, quelque part, c'est de se dire, hey, les apôtres, vous faillissez dans votre service, là. Les apôtres ici n'ont pas réagi. Ils ont agi avec discernement, avec sagesse, inspirés par Dieu. On découvre qu'ils ont mis à part des serviteurs reconnus et on voit aussi qu'il y a eu le sérieux dans le choix des serviteurs. Ce n'est pas parce qu'on a un besoin pratique, parce que la problématique, elle est pratique, hein, servir aux tables, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'ils ont négligé de discerner pleinement, concrètement, spirituellement, dans le choix de ces hommes. On met à part. Et on met à part des hommes sérieusement devant Dieu, des individus capables et reconnus pour ce service. Et on va le voir la semaine prochaine avec Étienne. Quel homme ! C'est pas n'importe qui. Il est reconnu pour son intégrité devant l'Éternel. Et on voit qu'il y a aussi cette dimension communautaire pour rayonner ensemble. Le témoignage, il est inévitablement mis à mal si la dimension communautaire n'est pas présente. On voit que c'est ensemble qu'ils cherchent une solution. Ils sont d'accord d'écouter les apôtres. Ils ne se sont pas dit « Eh non, là, les apôtres, vous allez un peu trop loin dans vos critères. » D'une même voix, ils écoutent les recommandations et choisissent ces personnes. D'une même voix. Unanime. Waouh. Et enfin, un aspect très important que relève le texte, c'est la centralité du ministère de la parole. On découvre les priorités de Dieu, quelque part. Non seulement à vouloir résoudre le problème, mais aussi dans la clarification des priorités. La parole et la prière pour les apôtres. La croissance, le bienfait de l'Église, passe prioritairement par ce ministère-là. Ce n'est pas le programme, ce n'est pas la structuration qui le permet, mais c'est la responsabilité des responsables qui est prise. Les apôtres confiés à l'Église exercent le mandat pour lequel ils ont été appelés. Nous devons parler de la parole de Dieu. Nous devons prier. Voilà notre responsabilité là. Nous ne devons pas le négliger. Ils ont été conscients que si l'Église veut grandir, si l'Église veut avancer, il y a la centralité de la parole. Paul dira ceci en Éphésiens, en Éphésiens 4, versets 11 et 12. C'est lui, donc c'est Dieu qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait, pourquoi ? Pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. C'est quoi l'édification ? C'est non seulement notre affermissement, mais c'est la croissance. Nous sommes équipés. Si les apôtres négligent leur responsabilité d'annoncer la parole, en final, l'Église ne sera pas équipée, ne sera pas efficace dans son témoignage. Les programmes, la structure ne peuvent remplacer la puissance de Dieu et de sa parole qui agit dans les cœurs, qui s'enracine dans les vies et qui est annoncée. Quelque part, on voit dans ce passage que Dieu encourage une structuration au service de la parole pour que la parole soit mise en avant, pour le service de l'unité de l'Église et pour sa croissance. Dieu permet que l'Église se structure pour que nous puissions vivre tout cela. Alors, comment nous approprier nous, aujourd'hui, 2000 ans après, ce récit, ces exemples, cette réflexion. Alors, il n'est pas difficile pour nous de pouvoir tirer parti de ces récits. Je trouve que Actes est très pratique, quelque part, même si tout, ce n'est pas des lois. Mais on voit que dans l'exemple de cette vie d'Église, il y a tellement de facilité à des ponts avec nous aujourd'hui. J'en vois 6 pour nous ce matin. Il y a l'importance de la communication. On sait que la division est un frein à l'unité et à la croissance de l'Église. Les occasions de nous diviser sont nombreuses. Ici, c'est une question de partage aux tables. les critiques, les murmures, les faux enseignements, nos propres préoccupations, nos propres dadas, le passé d'une église peut être un sujet de division, la question des générations entre jeunes et vieux, la différence des tempéraments, il y a des fonceurs, il y a des chaleureux, il y a des gens qui sont plus froids, ça peut être un sujet de division. Parfois, c'est des divisions doctrinales. Pour le combat de la vérité, alors on se chamaille à coups de versets bibliques. Mais quand on gratte un peu, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment doctrinalement les problèmes? On voit dans ce texte qu'il ne sert à rien de murmurer dans son coin. Ou pire, de s'en aller en claquant la porte. Dieu appelle à régler les choses. Et on le voit dans ce texte. Il faut donc en parler. C'est pour ça que j'ai dit l'importance de notre communication. Il faut parler. Les apôtres ont eu vent de ce qui s'est murmuré. Donc il faut en parler. Y compris avec les responsables. Il faut parler de nos problèmes, il faut parler qu'ils soient réels, qu'ils soient des ressentis, des malaises entre nous. Ce n'est pas anodin. Quand on réfléchit, peut-être combien ont claqué la porte de l'église parce que, voilà, ils ont murmuré mais ils n'ont rien dit. Bon, on ne les a pas écoutés, ça c'est le deuxième point. Prenons soin de résoudre nos différends. Et je suis reconnaissant que ces derniers temps, certains d'entre vous nous ont fait remonter des situations compliquées avec la jeunesse, des problèmes relationnels. C'est important. D'autres, malheureusement, ont fui. L'évangile nous appelle, et ce texte nous appelle à régler, à écouter et en parler, et à les résoudre. Et donc du coup, c'est le deuxième point, hein, c'est l'importance de notre écoute. On a deux oreilles, une seule langue, on le sait. Écoutons avant de parler. On a tellement du mal à écouter. Et je pense que là, les apôtres ont écouté. Ils ont entendu les murmures. Ils ont pris en compte le problème, c'est le béaba. Une des critiques classiques, c'est qu'on n'écoute pas, dans un sens ou dans l'autre. Que ce soit dans les tensions qu'on peut avoir entre nous, que ce soit dans des situations, dans des directions d'église, la problématique, les sujets de division sont liés parce qu'on n'écoute pas. Montrons que nous sommes disponibles. Et je sais qu'avec Mathieu, on a à cœur de montrer qu'on est disponible. On veut prendre le temps autour d'une tasse de café et vous ne nous prenez pas le temps. Vous pouvez demander un rendez-vous avec les responsables. Vous pouvez prendre le temps d'échanger les uns avec les autres. C'est un bienfait dont on ne devrait pas se priver de parler et d'écouter. Y compris Dieu. Est-ce qu'on écoute Dieu? Ça apparaît peut-être pas dans le texte, mais je pense que les apôtres l'auront écouté. Pour être repris et de se dire, notre priorité à nous, c'est la parole. Pour ceux qui nous l'ont sollicité ces derniers temps, on vous l'a rappelé, vous ne nous avez pas pris du temps. Ça fait partie du ministère, des responsables, de vous écouter. Le désir de développer nos temps de prière, c'est pour cela. C'est l'importance de la parole et de la prière, c'est d'écouter Dieu et de lui parler. L'idée de la boîte à questions, c'est ça, c'est de nous écouter. Nous voulons prendre acte des situations à régler. On voit l'importance dans ce texte des priorités. Personne ne peut tout faire. Je ne peux pas tout faire. Et vous non plus. Il faut choisir en fonction de nos dons, de notre appel, de notre disponibilité. Il faut fixer certaines priorités. Et là, les apôtres l'ont fait. Notre rôle à nous, c'est de prêcher et de prier. Ce qui n'empêche bien évidemment pas le pasteur de prendre une pioche et de creuser le parking. Mais ce n'est pas seulement à ça qu'il doit se concentrer, il me semble. Nous avons tous le droit de dire non pour certaines choses afin de nous concentrer sur d'autres. Et nous avons aussi tous la joie de pouvoir dire oui pour certaines choses. Ne négligeons pas de dire oui, je suis disponible. Et je pense que ces sept hommes ont dit oui, on est disponible. Parce que moi j'imagine, parce que là c'était fou, hein, ils disent vous allez vous charger de gérer la question des tables. Et vous entendez les murmures, on dit non, est-ce que je vais le prendre ce service? Ils ont dit oui. Les problèmes, les divisions doivent donner l'occasion d'examiner nos ministères. De découvrir les changements qui doivent être pris. Il est facile de rester les choses comme ils sont. Ils auraient pu se dire, non, on fait rien, on avance, bon, c'est des murmures, c'est un détail, et on n'avance pas. Non, ils ont concrètement choisi. Et ce texte nous montre l'importance de faire les choix sur nos priorités. Et c'est quelque chose qui me préoccupe actuellement. Quelles sont mes priorités dans mon ministère, dans mon engagement? On voit aussi l'importance du discernement pour le service. On a, en tant qu'Église, la responsabilité de discerner ensemble les personnes en responsabilité. Les personnes qui seront à même de prendre des services et des engagements. La Bible regorge, et Dieu nous a donné quantité de recommandations, de critères pour cela. Ici, le texte nous en donne quelques-uns pour un service de table. Et on voit que c'est avant tout des critères spirituels, qui nous parlent d'une qualité de foi, d'une profondeur de caractère de ces responsables. Et vous devez le faire lorsque vous choisissez un responsable. Vous avez dû le faire lorsque vous avez accepté mon ministère pastoral parmi vous. Mais ça devrait l'être pour tout service dans l'Église, d'avoir ce discernement, de se dire, est-ce que cette personne, elle est capable de vivre, de suivre ce service? Même pour une tâche pratique, nous sommes appelés à mettre en place des personnes sérieuses qui marchent avec le Seigneur. J'étais il y a quelques années dans un comité de camp de vacances, Et la règle était que même pour un choix de cuisinière ou d'aspect très pratique dans un camp, on demandait la recommandation pastorale de l'Église. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est que c'est pas juste la question de bien faire des choses, d'un service, non, mais on attend de cette personne des qualités qui donnent envie de suivre le Seigneur. Il en va de la réputation de Jésus-Christ et de son Église. Les personnes qu'on appelle au service même pratique doivent être des hommes et des femmes équipés de foi, d'esprit, des hommes et des femmes brûlants pour Dieu et pour son royaume. Et on voit qu'il y a l'engagement de la communauté à soutenir les services, les ministères. Ils l'ont choisi ensemble. On voit que les apôtres ont imposé les mains. On voit qu'il y a quelque part, on reconnaît ces hommes et on le montre et on s'engage autour d'eux. Si vous reconnaissez dans l'Église des personnes qualifiées pour un ministère, pour un appel particulier, parlez-leur, encouragez-les, soutenez-les, proposez-les. L'Église, c'est tout sauf du freelance. On le voit, c'est un choix communautaire. Parfois, on se dit, moi, je voudrais bien faire ça. Dimanche prochain, on prendra le temps spécifiquement. On n'a pas encore eu l'occasion de faire, mais de prier pour nos 4 diacres qui sont dans une année de probation, où, en tant qu'Église, on est amené à les soutenir, à les entourer, à les accompagner, à discerner s'ils sont qualifiés pour ce ministère ou pas. C'est notre responsabilité, là. On voit enfin que l'importance du partage des tâches, c'est un texte qui nous parle de délégation, de transmission. Si on essaye de tout faire, on va s'épuiser. Si on essaye de tout faire, on va mal faire les choses. On va priver de bien de situations aux frères et sœurs de servir. Si c'est toujours les mêmes qui font, les autres n'ont pas l'occasion de servir. On va limiter le rayonnement si c'est toujours la même personne qui fait tout. Les apôtres ici ont sondé les situations. Ils étaient la cause du problème. Ils en faisaient trop et ils ont dû déléguer. C'est vrai qu'il est facile de confier une responsabilité à des personnes qui en ont déjà, qui ont le cœur disposé, qui ont les aptitudes pour le faire. Mais parfois, il nous faut identifier les personnes qui ont le potentiel, les former, les accompagner, les mettre progressivement en place, les accompagner, et même s'il y a des balbutiements. Il est parfois impératif de réfléchir à notre structure, de réfléchir à ce que ça coince. Peut-être que l'Église, elle est freinée parce que justement, tout est concentré autour des mêmes personnes. Et c'est l'objet de la réflexion qu'on a menée avec les anciens depuis l'année dernière. Et je me réjouis que plusieurs personnes se lèvent pour cela et s'engagent dans la vie de l'Église. Enfin, on voit quelque chose que j'ai relevé déjà tout à l'heure, mais l'importance de la parole. On peut clairement passer à côté des priorités. Oui, un pasteur, oui, un ancien peut s'occuper de ranger les chaises. Il n'y a pas de souci. Il peut faire la communication. Il peut passer la commande pour le vidéoprojecteur. Il peut faire l'accueil. Il peut régler la sono. Mais peut-être est-il en train de négliger son ministère d'enseignement, d'intercession. Et quelque part, s'il néglige cet aspect-là, c'est tout le corps qui va pâtir de son ministère. En sommes-nous conscients ? Je suis convaincu, et ce texte le souligne, que peut-être bien des situations, y compris de conflits, seraient évitées si la parole et si la prière étaient en place dans l'Église, étaient au cœur de la vie de l'Église. Les anciens, on n'a pas juste un rôle de coordination, d'administration, d'exécution. La parole de Dieu nous rappelle que les anciens ont cette responsabilité spirituelle de conduire l'Église. Et nous serons jugés responsables de cette conduite. Et quand notre mission, quelque part spécifique, est mise à mal, ici, les apôtres, elle était mise à mal, les clignotants devraient être rouges. Et on le voit dans les lettres pastorales de Paul, où il rappelle aux anciens de rappeler leur ministère, l'objet de leur ministère. Est-ce que la parole, et là, c'est pas simplement la place dans les ministères qui sont qualifiés pour l'Église, mais est-ce que la parole est vraiment au centre de nos vies, de notre vie d'Église ? Alors je sais, il y a des livres qui sont chouettes, il y a des livres à étudier même en groupe de quartier qui sont chouettes, mais ça reste des paroles d'hommes. Est-ce que la parole de Dieu est vraiment au centre de notre vie, de notre vie de disciple, de notre vie d'Église ? Je voudrais conclure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y a un passage dans Exode 18, où il y a aussi eu des murmures. Les Israélites murmuraient contre Moïse, à plusieurs fois d'ailleurs. Mais il y a une fois où c'est parce qu'il était débordé. Il était censé rendre des décisions de justice et on venait le voir pour des différends. Et les gens faisaient la queue de matin au soir pour obtenir une décision de la part de Moïse. Moïse s'usait. Le peuple se lassait. Et là, à ce moment-là, le beau-père de Moïse est venu le rendre voir. Il y avait la cohue et il a compris ce qui se passait. Il a dit à Moïse de déléguer la plupart des cas traités et peut-être certains qui étaient plus compliqués de s'en charger lui. Ici, dans les actes, on murmure en coulisses. Le mécontentement gagne du terrain. Et on voit les apôtres qui délèguent. À d'autres, une responsabilité qui, jusque-là, le gardait pour eux. Nous tous, on est forcément de l'un ou l'autre des côtés de l'équation. On est peut-être en responsabilité. On est peut-être en train de murmurer. On est peut-être négligé. Sommes devant le défi d'accepter nos responsabilités, le défi de régler les situations aussi. Et ma prière est que nous puissions vivre la conclusion de ce verset 7, qui transforme quelque part ces murmures en une bénédiction, en une unité, en une direction claire. La parole de Dieu se répande. Et c'est mon désir pour nous, c'est que la parole de Dieu se répande dans nos vies, que le nombre de disciples se multiplie. Alors que le Seigneur nous inspire dans nos projets, dans nos réflexions à venir, que le Seigneur nous vienne en aide pour nous permettre de vivre ces belles choses, pour que l'Évangile, pour que la parole dans toute sa beauté puisse se répandre. Amen.